J'appelle maintenant Anne Ducret, qui est chef de projet pour la valorisation des données du réseau des archives de France et qui va nous faire le premier des deux retours d'expérience sur les difficultés de comptage que nous vous proposons maintenant.
Bonjour, bonjour à toutes et tous. Et merci pour cette invitation à partager cette réflexion sur la fréquentation des publics. Merci. Donc, je suis au sein du service interministériel des Archives de France, donc qui est à la Direction générale des patrimoines, chef de projet pour la valorisation des données du réseau. Et à ce titre, je pilote depuis 2020 la transformation numérique de l'enquête annuelle sur l'activité des services publics d'archives. Alors, quelques éléments de contexte sur nos outils de connaissance de nos publics. Donc, l'enquête annuelle, dont je vous parlerai un petit peu plus en détail juste après, qui est avant tout quantitative et partiellement qualitative, et qui nourrit depuis les années 60 donc des rapports annuels qui sont disponibles sur notre portail France Archives, et qui donc enquête qui a donc fait l'objet d'une profonde refonte depuis 2020. Nous avons développé à ce moment-là un observatoire des publics sur le portail France Archives également, qui permet de valoriser les données qui sont collectées par cette enquête avec des analyses des grandes tendances qu'on a pu observer, j'y reviendrai. Et puis ponctuellement, nous menons des enquêtes nationales là, qui sont plus qualitatives, qui sont souvent basées sur des questionnaires auprès des publics et qui sont également disponibles sur le portail France Archives. La dernière en date de 2021, 2 milliards de clics, elle portait sur les usagers en ligne de nos services d'archives. Elle a reçu un peu plus de 27 000 réponses et c'était très satisfaisant parce que ça nous a permis vraiment d'en tirer des enseignements nouveau ou de confirmer des choses dont on avait l'intuition. Cette politique des publics est devenue un élément essentiel ces dernières années. C'est l'axe 1, c'est un des axes forts de notre cadre stratégique de modernisation des archives, ce qui a conduit aussi à la refonte de l'enquête annuelle. Je vais en parler juste après. Alors, le périmètre de l'enquête, c'est l'ensemble des activités des services. Donc la mesure de la fréquentation et la politique des publics n'est qu'un aspect, et c'est l'ensemble elle concerne l'ensemble des services du réseau. Donc le réseau des archives de France, vous le voyez, ce sont nos trois services d'archives nationales, les archives départementales, régionales, environ 600 services d'archives communales et intercommunales qui ont un service d'archives constitué au sens du code du patrimoine, et puis une centaine d'opérateurs, grands opérateurs de l'État et opérateurs locaux. Donc vous voyez qu'on est sur un corpus beaucoup plus réduit que celui des bibliothèques. Donc, comme je vous le disais, depuis 2020, cette enquête a fait l'objet d'une transformation numérique selon deux axes. D'abord, un resserrement sur des indicateurs vraiment de référence. Cette enquête était auparavant un tableur Excel avec une trentaine d'onglets, plus de 350 indicateurs, donc très riche, mais très longue à remplir pour les services et très difficile à exploiter pour les archives de France. Donc il y a eu un gros travail en interne d'identification d'indicateurs stratégiques, de redéfinition vraiment de ces indicateurs et des attendus pour chaque indicateur. Et on a restructuré l'enquête classiquement suivant notre chaîne de traitement archivistique. Voilà, donc il y a des indicateurs de moyens, mais ensuite on retrouve la collecte, le classement, conservation, communication, etc. Deuxième axe de cette transformation, c'est l'utilisation d'un outil d'enquête en ligne qui prend en compte tout le processus de la collecte jusqu'à la data visualisation. Donc c'est un outil qui était déjà utilisé au ministère de la Culture, au SLL, et donc on a eu l'opportunité de pouvoir l'utiliser nous aussi dans une forme un peu différente. C'est la suite logicielle Ethnos de l'éditeur Soft Concept. Donc aujourd'hui, la phase de collecte, donc voilà les différentes phases, la phase de collecte en ligne avec le formulaire que vous voyez là-bas est stabilisée. Il y a eu un gros travail d'accompagnement des services sous forme de webinaires notamment. La deuxième partie est également stabilisée sur l'exploitation très fine et le croisement des données et la diffusion des données. Nos données sont disponibles sur le portail France Archives. Elles nourrissent notre rapport annuel papier qui est une petite brochure richement illustrée qui est avant tout un outil de communication. On est intégré aujourd'hui au dispositif statistique du ministère, en particulier Patrimostat, sur la fréquentation des patrimoines. Et puis, nos jeux de données sont publiés sur la plateforme data.culture.gouv.fr. Troisième étape que nous avons développée en 2023 et que nous continuerons à développer, c'est la data visualisation sur une plateforme à accès réservé au réseau. Je vous en parlerai à la fin de la présentation. Alors, pour ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, les indicateurs de mesure de la fréquentation au sein de cette enquête, ce sont ceux-ci. Donc, je vous ai mis pour information les chiffres 2022. Donc, nous avons le nombre de lecteurs inscrits, puisque les inscriptions sont annuelles, donc les lecteurs doivent se réinscrire, avec une répartition par typologie. Et ça, cet élément un peu plus qualitatif, il est vraiment important parce que ça nous a permis effectivement au fil du temps de voir l'évolution de notre lectorat qui a changé. Et puis les séances de travail, c'est aussi quelque chose qui est très important puisqu'on s'est rendu compte que la fréquentation des salles de lecture ne cesse de baisser depuis une dizaine d'années dans les services d'archives. Pour autant, le nombre de séances de travail reste relativement stable. Donc sur ce point, on a des chiffres assez fiables puisque, comme vous l'avez compris, les lecteurs s'inscrivent annuellement et sont contrôlés à l'entrée de la salle de lecture. C'est un petit peu moins vrai pour la deuxième catégorie, les participants aux activités culturelles et pédagogiques. Donc on distingue les adultes et les jeunes de moins de 18 ans, les scolaires qui sont reçus dans les services éducatifs. La plupart des activités, alors toutes les activités sont gratuites, la plupart se font sur inscription, les visites, les cours, les ateliers, donc là aussi on a des mesures relativement fiables. Ce n'est pas vrai en revanche pour les expositions, qui sont souvent tout simplement dans des locaux, dans des lieux, même au sein du service et a fortiori hors les murs, où il est très difficile de faire un comptage. Le comptage ne peut être que manuel et donc il n'est pas forcément fiable, j'y reviendrai. Très important pour nous aussi, c'est les publics en ligne qui n'ont cessé d'augmenter au fil des années, tout simplement parce qu'il y a énormément de ressources sur les sites internet des services d'archives, beaucoup d'accès à des documents. Il y a beaucoup de documents d'archives qui sont numérisés, en particulier pour les généalogistes. Vous voyez que les chiffres sont importants et ça explique évidemment en grande partie la baisse de la fréquentation de nos salles de lecture. Voilà quelques éléments. Là, c'est un extrait simplement pour dire que pour chaque activité, on demande au sein de l'enquête quelques précisions qualitatives sur le type de public concerné et on demande si la fréquentation a été comptabilisé de manière fiable ou s'il s'agit simplement d'une estimation. Ce qui nous permet, nous, ensuite, d'utiliser ces chiffres avec précaution. Voilà, alors le constat qu'on peut faire aujourd'hui, donc relative maîtrise du comptage pour le lectorat qui consulte des documents d'archives et pour les activités sur inscription. Une question sur les expositions dont la fréquentation est difficile à comptabiliser. Les services d'archives n'utilisent pas d'outils de mesure au sens où on les a vus ce matin, c'est-à-dire des capteurs ou des. J'ai fait un petit tour du réseau en prévision de cette journée, mais j'ai pas trouvé d'exemple. Je pense que c'est aussi parce que cette fréquentation des activités culturelles n'était pas un sujet prioritaire enfin en tout cas mesurer cette fréquentation n'était pas un sujet prioritaire de manière précise. Une estimation suffisait bien. Aujourd'hui, ça a un petit peu changé et je pense que ce qui est important à avoir en tête, c'est qu'il faut replacer ces questions de mesure dans une réflexion plus large sur les nouveaux publics qui sont reçus dans les services archives, leurs nouveaux besoins et les usages des espaces d'accueil des publics. On a, comme je le disais, une sous-fréquentation des salles de lecture. Et il y a une vraie réflexion au sein des services, en particulier les bâtiments d'archives qui ont été construits ou organisés dans les années 90 au moment du grand boom des généalogistes avaient parfois prévu des salles de lecture de 100-150 places qui à l'époque étaient remplies tous les jours. Aujourd'hui, c'est vraiment pas le cas. Si on a 20 lecteurs par jour, parfois on est content. Donc du coup, pour des questions d'usage, de coûts énergétiques, de sobriété, on voit ces services réfléchir à d'autres, à une reconfiguration de ces espaces finalement. C'est aussi très intéressant à constater sur les nouveaux bâtiments qui sont en cours de construction ou qui sont plus récents, où on voit que les espaces d'accueil des publics sont vraiment conçus de manière complètement différente, avec une salle de lecture, c'est-à-dire une salle de consultation des documents originaux, beaucoup plus petite, et puis après des espaces un peu dans un esprit tiers-lieux qui sont un petit peu modulaires, où on va avoir des lieux finalement où on peut travailler seul, des postes numériques pour consulter des archives électroniques ou audiovisuelles, des espaces pour travailler en groupe, des espaces de convivialité qui peuvent être aussi avec des lieux d'exposition de copies de documents qui vont pouvoir peut-être amener vers des lieux d'exposition plus de documents originaux. Voilà, donc ça c'est vraiment le contexte et c'est vraiment une tendance forte aussi dans les services d'archives qui a un impact aussi sur les métiers, hein, sur les fonctions des agents qui doivent évoluer parce que finalement on va recevoir des publics qui viennent. Avant, c'était des généalogistes. Maintenant, c'est plutôt des gens qui viennent pour des démarches administratives, d'établissement de droit. Et donc, ce sont souvent des recherches très pointues qui demandent un accompagnement personnalisé. Alors, sur les connexions en ligne, il y a aussi... Là, je ne m'attarde pas, mais c'est vrai qu'on a eu aussi des questionnements sur les problèmes de comptage. Ça, c'était simplement pour vous montrer notre observatoire, enfin un extrait de notre observatoire du public sur le portail France Archives, qui nous permet, donc voilà, on a essayé de faire une espèce d'évolution tendancielle sur une dizaine d'années, et c'était assez intéressant finalement de voir l'évolution. Ça nous a conforté dans des choses évidemment qu'on savait déjà, et puis on a eu quelques surprises. Alors, il y a évidemment la crise sanitaire, vous voyez que ça remonte, mais on n'a pas retrouvé les chiffres de fréquentation de 2019, qui reste notre année de référence. Pour terminer, quelques éléments sur nos perspectives. Il y a deux axes. L'exploitation plus fine et le croisement des données nous a montré qu'il y avait encore un enjeu sur l'amélioration de la qualité des données. Un enjeu fort, l'enquête est déclarative, il peut y avoir des erreurs de saisie, il peut y avoir, et ça concerne beaucoup d'indicateurs, pas seulement la fréquentation, un problème de fiabilité, et effectivement, au fur et à mesure où on communique sur ces chiffres, où on s'en sert pour voir l'atteinte des objectifs opérationnels de notre cadre stratégique, où on est intégré au dispositif statistique du ministère, aux chiffres clés, à la plateforme Vidoc, ben, il est vraiment essentiel qu'on soit sûr de cette fiabilité. Donc on a commencé en 2023 et on poursuivra en 2024, identifier des données vraiment stratégiques et la fréquentation des publics en fait partie, sur lesquelles on va effectivement accompagner les services pour monter en qualité sur ces questionnements-là. Un des axes, ça va être aussi le développement de notre plateforme de data visualisation. Elle est, donc voilà, c'est juste une copie d'écran. elle est à accès réservé au réseau. L'idée, c'est que vraiment les services du réseau des archives de France puissent s'en emparer. Ils peuvent récupérer des graphiques pour leur propre présentation, pour leurs propres besoins de reporting. Et ça sera évidemment aussi un levier pour améliorer la qualité des données. Donc ce sont des graphiques dynamiques qui se mettent à jour au fur et à mesure au moment de la requête. Et on a introduit pour pouvoir, parce qu'on a un enjeu nous aussi de comparaison des services entre eux, et donc on a introduit pour pouvoir comparer des services dans des situations comparables des filtres par métrage linéaire total conservé, parce que c'est un bon critère pour nous, et puis par population du ressort. Et puis juste pour terminer sur les éléments qualitatifs qui sont essentiels pour nous, en parallèle de l'enquête statistique dont les données donc sont collectées en ligne, nous avons ce que nous appelons des bilans qualitatifs. Donc ce sont des documents de traitement de texte dont la rédaction est faite par les services de manière libre. Le document est structuré en fonction des grandes rubriques de l'enquête, mais après la rédaction est libre. Donc ce sont des documents qui sont souvent très très intéressants, évidemment, parce qu'il y a cette matière qui éclaire les chiffres. Mais jusqu'ici, on n'avait pas d'autre moyen de les exploiter que de les lire, c'est ce qui était, vous vous en doutez, assez long. Donc on vient d'entamer avec un data analyst du service du numérique du ministère un projet pour mettre en œuvre une analyse automatisée de ces bilans. Donc à partir d'une sélection de mots-clés, de thématiques qui étaient importantes pour nous, il a fait des analyses lexicales et sémantiques pour tirer la substantifique moelle de ces bilans. On va aller plus loin avec toutes les possibilités que l'intelligence artificielle peut nous donner. Donc c'est le début, mais c'est vrai que les premiers retours qu'on a eus de sa part sont vraiment déjà très très intéressants pour pouvoir effectivement exploiter au mieux ces bilans. C'était pour insister sur l'importance des aspects qualitatif. Et donc, justement, on poursuit nos études qualitatives et la dernière, celle en cours, donc le prestataire doit nous rendre le rapport à la fin de l'année, sera sur les publics étudiants qui sont en baisse constante là aussi dans les services d'archives ces dernières années. Donc, on sait à peu près pourquoi. Ce qui nous intéresserait, c'est de connaître un peu leurs nouveaux besoins, de voir comment on peut travailler avec eux et avec les universités sur d'autres programmes de recherche sur des archives plus contemporaines et voir aussi comment et les accompagner pour effectivement qu'ils puissent faire des recherches qui soient à la fois en ligne et à la fois sur des sources originales en salle de lecture. Voilà, je vous remercie et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions, maintenant ou plus tard. Merci. Les questions, c'est après.
Merci beaucoup, Anne. Donc, on pourra poser les questions après ce second retour d'expérience qui va nous être fait à distance par Marion Maussan. On passe à la lecture publique puisqu'elle est responsable du pôle carré d'art et lecture publique à Nîmes.
Bonjour.
Bonjour, Marion.
Hop.
Et bienvenue.
Merci.
Le temps... Alors. Que vous mettiez votre présentation, je rappelle aux auditeurs et auditrices sur Facebook et sur le site BPI Pro qui peuvent nous poser leurs questions et que nous les transmettons à nos intervenants et intervenantes.
Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez?
Oui, parfaitement.
Ok. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Marion Maussan, je suis responsable du pôle lecture publique carré d'art au sein du réseau des bibliothèques de Nîmes. Donc, en plus de ma mission d'encadrement des équipes du pôle lecture publique, j'ai deux missions transversales, l'évaluation et l'innovation. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui sur la question de l'évaluation de la fréquentation chimie. Alors, très rapidement, la présentation du réseau de lecture publique nîmois. Alors, compte 5 structures, la centrale, carré d'art, et 3 bibliothèques de quartier plus un médiabus, la médiathèque Marc Bernard sur l'Ouest Nîmois, donc voilà, qui est actuellement fermée, la bibliothèque Sarcavalier dans le CHU et la bibliothèque Jean d'Ormesson sur l'Est du territoire, sur le quartier plutôt Masdemingue, et le médiabus qui circule dans toute la ville. Sur nos chiffres clés, alors nous comptons 10 000, un peu plus de 10 000 inscrits. En valeur absolue, la courbe est ascendante depuis 2022. Dans les relativement parlant, on reste très en dessous des moyennes nationales. On reste sur l'action culturelle et les accueils de groupe. Nous avons accueilli plus de 50 000 personnes en 2022. Dont 10 000 personnes sur vraiment la mission éducative, les accueils scolaires, les accueils de jeunes. Nous avons totalisé 460 000 frais, là aussi sur la courbe est ascendante, et 526 000 entrées sur l'ensemble du réseau. Alors, sauf Mediabus, qui est la seule bibliothèque qui ne dispose pas d'un portique, qui est notre principal outil de comptage pour la fréquentation. Sur ces 526 000 entrées, 450 000 concernent le bâtiment carré. Alors, sur nos outils, nos pratiques générales d'évaluation. Nous produisons des bulletins trimestriels et annuels depuis 2014. Ce sont les mêmes indicateurs que nous utilisons depuis 2015. Ces bulletins fonctionnent en fait comme des baromètres afin d'avoir de permettre voilà une comparaison fiable sur le long terme des indicateurs que nous avons choisis, les nombres d'inscrits, le nombre d'entrées pour carré d'art, le nombre de prêts, de personnes accueillies dans le cadre de l'action culturelle et des accueils de groupe et la fréquentation du site web et de la bibliothèque à domicile, donc notre bibliothèque de ressources numériques. Nous avons également mené une enquête en interne, sur les usages, la fréquentation et la satisfaction des usagers de plus de 15 ans du réseau Nîmois, hors Sarcavalier qui en 2022 était encore fermé dans le contexte post-crise sanitaire, puisque c'est une bibliothèque qui est installée dans un centre de gérontologie et qui a été jusqu'en juin 2022, soumise à des restrictions de fréquentation extrêmement fortes. Nous n'avons donc pas pu enquêter dans cette bibliothèque. Alors, dans ce cadre-là, pour nous, l'enquête sur la fréquentation, ça a moins été de nous interroger sur combien de personnes entraient dans la bibliothèque. C'était une approche plus qualitative. On a surtout cherché à savoir comment nos usagers de plus de 15 ans utilisaient les services des bibliothèques. À quelle fréquence, seul ou à plusieurs, comment est-ce qu'ils venaient, pour combien de temps. Pour compléter donc le suivi de la fréquentation au niveau de la bibliothèque, donc on a différentes approches, par enquête interne, je viens d'en parler, par enquête externe, une enquête avait été confiée à un cabinet en 2012 pour évaluer notamment le taux de pénétration du réseau de lecture publique Nîmois, ce qu'on n'était pas du tout capable de porter par nos propres moyens. Cette enquête n'a pas été actualisée depuis. Et donc, par comptage manuel, pour connaître la fréquentation des espaces sur une durée déterminée au moyen des portiques présents donc dans chaque structure. Alors, nous n'avons pas à ce jour réalisé d'enquête de comptage manuel ponctuelle, sauf en salle Séguier, qui est notre espace de consultation surveillée et de travail silencieux. En dehors de ça, nos seules données de fréquentation sur le nombre de personnes présentes à un instant T de la bibliothèque, nous l'obtenons avec les portiques de comptage. Alors, le cas particulier du comptage à la BDN. Alors, on a des données qui sont très facilement disponibles, qu'on extrait une fois par trimestre pour produire donc nos bilans trimestriels, mais dont on ne va pas se le cacher, qu'on exploite mal ou insuffisamment. Alors, trois biais en particulier, c'est que d'une part, aucune de nos bibliothèques ne dispose d'une entrée de service. C'est la même entrée pour les usagers et pour les agents. C'est particulièrement problématique à Carré d'Art, j'y viendrai ensuite. Ces données, on ne les met pas du tout en regard avec les autres données de fonctionnement des bibliothèques, les prêts, les inscriptions. On ne les pondère pas non plus avec les données qu'on a récupérées de notre enquête en 2022 sur notamment la part des usagers qui fréquentent la bibliothèque plusieurs fois par semaine. On les prend brutes. Et donc, on a, comme je vous expliquais, on n'a pas d'autres sources de comptage pour compléter les données du portique et pour affiner ces données. À Carigard. Alors, c'est là que ça devient particulièrement compliqué. Elle est bien sûr, donc la bibliothèque est bien sûr confrontée, concernée par les problématiques que j'ai évoquées juste avant. Elle cumule d'autres difficultés. Alors d'abord, Carigard n'a pas une, mais deux entrées. Une côté place Maison Carrée, une côté rue Racine, toujours pour les usagers et pour les personnels, et toutes les deux équipées de portiques de comptage. C'est pas du tout neutre, puisqu'il y a quand même 66 personnes qui travaillent à Carigard rien que pour la bibliothèque, et Carigard n'abrite pas qu'une bibliothèque. On n'a pas de fermeture, la bibliothèque est ouverte en continu, il n'y a pas de fermeture méridienne. Donc, c'est évidemment une plage horaire sur laquelle on compte davantage d'entrées et de sorties. Et donc, ça brouille encore un peu plus nos données, les données qu'on peut extraire de ces portiques, pardon. Et donc, au sein du même bâtiment, Carigard, c'est un bâtiment très compliqué, y compris pour nos usagers, cohabitent donc une bibliothèque, une librairie, un musée d'art contemporain, un restaurant, des toilettes publiques. Et puis Carigard, c'est aussi un lieu de passage et un lieu de rencontre non culturel. Alors un lieu de passage d'abord parce que passer par Carigard, ça vous permet de gagner plus facilement les jardins de la Fontaine plus rapidement quand vous venez du centre-ville. C'est un lieu de rencontre non culturel. Alors c'est parce que je savais pas trop comment appeler ça. C'est un lieu de pique-nique en fait, dit très concrètement, notamment sur la période sur le 12-14, à partir de, on va dire, octobre et jusqu'au mois de mars, enfin sur toute la période en fait où il fait plus suffisamment beau pour que lycéens et étudiants aillent déjeuner dehors. Là aussi, c'est un flux non négligeable. On voit le premier service qui arrive à midi, le deuxième qui arrive à 13h, et toutes les places disponibles au sein de l'atrium sont prises. Alors, je ne sais pas. On dit que ce sont des usagers de la bibliothèque, puisque, un peu par convention, c'est-à-dire que le musée, le restaurant, on interprète ça comme des espaces contraint le musée parce qu'il faut payer un droit d'entrée pour y aller. Les espaces en libre accès sont assimilés comme les espaces de la bibliothèque. Dans les faits, je ne suis pas certaine, on l'a jamais vérifié, mais je ne suis pas certaine que les gens qui viennent manger à Carigard puissent aient vraiment un usage de la bibliothèque en dehors du temps de pique-nique. Là aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas vérifié et donc on les compte parmi les gens qui fréquentent la bibliothèque, peut-être de manière tout à fait abusive. Ces données de fréquentation du musée, du restaurant, on pourrait relativement facilement les récupérer, ce qu'on ne fait pas actuellement. En revanche, sans comptage vraiment manuel, ce qu'on ne fait pas non plus, on n'a aucun moyen d'avoir des données sur le nombre de personnes qui fréquentent l'atrium sur la plage stratégique du 12-14 et sur les toilettes. Perspective. Alors, comment a-t-on contourné ces difficultés? Alors, c'est la slide mortification, c'est-à-dire que quand j'ai préparé cette intervention, c'est là que j'ai pris conscience de tout ce qu'on ne faisait pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, qu'on n'a rien fait au cours des quatre dernières années en matière d'évaluation. On a fait d'autres choses. On s'est notamment préoccupé d'obtenir des données complémentaires à celles qu'on avait, qu'on pouvait obtenir par notre SIGB, par nos capteurs, par nos compteurs. Dans le cadre de l'enquête qu'on a menée en 2022, on n'en a pas fait non plus une une urgence ou une priorité, l'amélioration de la, enfin voilà, de notre décompte, de la fréquentation de carrés d'art, parce qu'on n'est pas confronté à des problématiques de sécurité ou de régulation de jauge, sauf très, très ponctuellement en période de révision où nos espaces, et notamment les places assises de travail, sont nettement plus utilisées. Mais on ne peut pas dire que, comme à la BPI ou comme d'autres établissements, il y a un véritable besoin de régulation de l'utilisation de nos espaces. Et aussi parce que quand on dit que voilà, le carré d'art fait 450 000 entrées, le gros de l'activité de carré d'art est porté par la bibliothèque. On estime à environ 90%. Donc, c'est une estimation. On arrondit la fréquentation de carré d'art à la, on assimile la fréquentation de carré d'art à la fréquentation de la bibliothèque. C'est arrondi. Ça n'est pas complètement, complètement faux non plus. Mais ça manque très clairement de rigueur. Donc, à ce jour, comme je vous expliquais, donc nos données de fréquentation ne font pas l'objet d'un traitement, faute essentiellement alors de savoir-faire en interne pour pouvoir programmer des opérations de comptage de la bonne manière. Ça se fait pas n'importe quand, ça se fait pas de n'importe quelle manière. Sur la pondération des données également, le plus dur en fait pour nous, c'est pas tellement de récolter des données, c'est plutôt de les interpréter justement. Et là, je pense qu'on, enfin, je suis certaine qu'on manque de savoir-faire en interne. Et puis de coordination, voilà, avec les autres acteurs du bâtiment carré d'art, plus par manque d'habitude, il n'y a pas d'opposition ni d'aucun des acteurs de carré d'art pour voilà ajuster nos chiffres de fréquentation. C'est simplement voilà que c'est une démarche que pour l'instant personne n'a entrepris. Et voilà, ça fera partie de nos priorités. L'évaluation, ça voilà, ça fait partie de nos axes stratégiques. Donc, voilà, il y aura un réel effort à fournir pour affiner, ajuster nos données de fréquentation, les données de fréquentation des bibliothèques nîmoises, et plus particulièrement en carré d'art. Voilà.
Merci beaucoup, Marion. Et je te remercie de rester avec nous pour la séance d'échange avec notre public dans la salle et sur les réseaux. Première question.
Je voulais faire un retour d'expérience sur l'usage d'affluence en bibliothèque publique. Nous, là, depuis 2 ans, je travaille dans le réseau des médiathèques de Vallée-Sud Grand Paris, un des territoires du Grand Paris, où il y a 7 médiathèques. Et dans le cadre d'une démarche d'accueil qualité, on a installé affluence au moment où on étendait nos horaires aussi. Et dans l'idée aussi de pouvoir parfois désaturer la ville où je travaille, il y a une BU. Donc on ouvre aussi 2 jours en ouverture continue, mais il y a des limites, et peut-être que des conseils seraient les bienvenus, peut-être que vous pourrez me répondre. Mais en fait, je trouve qu'affluence se limite aux usages très diversifiés d'une bibliothèque publique, avec un espace et des rythmes d'usage différents des espaces aussi. Parce qu'on paramètre, on a paramétré en fonction du nombre de places de travail, qui est de 70 dans l'équipement où je travaille. Et en fait, 70 passages devant le compteur, ça peut arriver très vite un samedi matin. Donc il se trouve qu'un samedi matin, à l'heure où il y a beaucoup d'enfants et de parents, donc il se trouve qu'on dépasse les 100%. On s'est rendu compte qu'on dépassait les 100% très vite à certains moments. On a voulu pondérer en augmentant la jauge. Mais en fait, il y a des moments où finalement, il n'y a pas d'enfants. La section jeunesse est quasi déserte. En période de révision, les places de travail sont complètes, mais affluence affiche un taux de remplissage de 60%. Outre ça, c'est très utile parce qu'on n'avait aucune donnée de comptage. Mais en fait, voilà, on se heurte à cette difficulté, et peut-être que vous aurez des solutions.
Oui, je suis le collègue de Marine.
Co-fondateur.
Co-fondateur d'Affluence à l'occasion. Effectivement, oui, en lecteur public, on va regarder au cas par cas dans certaines situations, et c'est bien d'échanger là-dessus. Elles peuvent être faites différemment, du coup, les bibliothèques. Il peut y avoir en bibliothèque territoriale, municipale, il peut y avoir des espaces vraiment dédiés au travail, d'autres non. Et on peut compter différemment, du coup, le nombre de personnes. Et ça va dépendre aussi de la technologie. Par exemple, vous avez parlé des enfants. Si on utilise les dernières technologies qu'on utilise, les plus précises, qui vont être dans les grandes bibliothèques, telles que le compteur 3D, on va pouvoir exclure, on va pouvoir compter les enfants pour la fréquentation, par exemple, mais les exclure si on veut afficher un taux d'occupation, par exemple. Donc, compter que les adultes pour, qu'on va considérer qu'ils vont dans les espaces de travail. On va également compter différemment, comptabiliser différemment le type de place qui va exister, si c'est des canapés, des places de travail réelles. Et là, on va différencier cette jauge, on va la recalculer, donc on va la mettre au-dessus que le nombre de places de travail réelles pour afficher un taux d'occupation plus juste. Voilà. Mais la méthodologie va vraiment dépendre, on doit échanger avec vous sur cette situation pour vous informer au mieux.
Mais justement, donc moi j'avais suivi avec Laurence Kamkam le déploiement de tous nos compteurs au sein du réseau. Je regrette qu'il n'y ait pas eu une remontée directe vers nous pour justement réajuster ces éléments-là, parce que c'est sûr que c'est des calibrages qu'on doit avoir ensemble en fonction des usages, des dispositifs qu'on a mis ensemble, parce qu'on le sait, les configurations changent, on sait qu'il y a toujours une phase où on n'a pas pris en compte tel ou tel espace ou tel sens de circulation. Et en général, avec d'autres bibliothèques, ce qui se passe, c'est qu'il y a des remontées vers notre support, et après on se déplace pour voir comment on peut améliorer justement ou affiner le comptage, quoi.
Oui, on peut affiner aussi. Enfin, en fait, il y a plein de cas différents où on a des cas spécifiques à chaque fois et des réponses spécifiques à chaque fois. Mais on peut affiner la jauge, par exemple, sur certaines heures, de certaines heures d'ouverture de la bibliothèque, dire on sait que c'est ce type de public et on va donner une jauge d'accueil de 120 personnes, par exemple, ou de 80 personnes. Et d'autres périodes de la journée, on va la limiter à 40 personnes, etc. Voilà. Donc c'est vraiment des choses, il y a une capacité de réglage qui est importante, mais effectivement sur certains cas, certaines bibliothèques qui vont avoir des services très différenciés, où un échange est souvent utile pour affiner cette information.
Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre contact avec vous et on va réétudier la question justement pour vous aider à mieux affiner cette jauge-là.
Oui, moi je remercie Marion Moisson d'être intervenue sur le cas de Nîmes. Alors, c'est moi qui l'ai poussé un peu. C'est pour ça que je l'ai obligé à cet exercice de contrition. Mais il ne faut surtout pas s'excuser. Je trouve que les problèmes qui se posent à Nîmes sont des problèmes qui sont intéressants parce que justement, la question de la fréquentation n'est peut-être pas un problème et n'est peut-être pas une priorité pour toutes les bibliothèques. Alors à Nîmes, il y a une grande spécialité, c'est les bâtiments qui ont deux entrées, hein, ça de toute façon. C'est également, par exemple, j'ai lu récemment que la gare de Nîmes est la gare d'Occitanie qui compte le plus de gens qui sont sans prendre de train. Et pourquoi ? Parce qu'il y a deux entrées. Et en fait, ça sert de passage. C'est une gare qui sert à traverser une partie de la ville en coupant. Et ce qu'a dit Marion, même chose, pour aller au Jardin de la Fontaine, il vaut mieux traverser la bibliothèque que faire le tour. Et on comprend que l'idée de calculer la fréquentation, c'est vraiment, il faut que ça soit lié à un projet, un argumentaire, un plaidoyer à faire. Et ça, c'est vraiment en lien avec la collectivité qu'il faut le faire. Parce que la collectivité à Nîmes, par exemple, ne s'intéresse pas du tout, en fait, au calcul de la fréquentation de la bibliothèque. Ce qui l'intéresse, c'est que dans le bâtiment du Carré d'Art, qui est un bâtiment construit par Norman Foster, etc., un peu emblématique de la ville, hein, il y a la Maison Carrée, la bibliothèque du Carré d'Art, les arènes, bon. Ce qui compte, c'est qu'il y ait du monde. Et il y a plein de monde. Puisqu'il y a même des gens qui vont pique-niquer dedans. C'est extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de bibliothèques qui deviennent des lieux de pique-nique. Donc, la problématique est tout autre. C'est-à-dire que là, en effet, la question, c'est plutôt travailler sur les taux d'occupation des espaces. Et on revient à la démonstration qu'a faite Sony ce matin. C'est-à-dire qu'il faut peut-être travailler, et c'est ce qu'ils font, hein, par exemple, la salle patrimoniale, hein, qui est une salle en fait, d'études maintenant, où on n'est pas seulement sur des manuscrits, etc., mais c'est une salle salle silencieuse. Donc c'est une salle qui a changé en fait d'objectif. C'est-à-dire qu'au départ, c'était une salle patrimoniale. Maintenant, c'est surtout une salle silencieuse pour les étudiants qui veulent travailler, etc. Là, il y a un comptage. Et à la limite, le comptage manuel, là, suffit largement. On sait exactement à quel moment elle est plus occupée. Donc, selon les dispositifs et selon les objectifs qu'on se fixe, il faut vraiment, en relation avec les collectivités, ce que veulent... quels sont les objectifs aussi des collectivités. Encore une fois, il y a, dans le cas de Laurence ce matin, là, il y a vraiment un enjeu sur montrer que les investissements qui sont faits par les collectivités, eh bien, ils réussissent bien mieux s'il y a les moyens qui vont avec, etc. Donc là, c'est sûr que le calcul de la fréquentation est très efficient. Dans d'autres cas, ça sera autre chose qui sera la priorité. Je pense que simplement... il faut adapter aussi ce qu'on veut faire et donc adapter aussi les moyens. C'est peut-être pas la peine, en effet, d'aller mettre des capteurs partout à Nîmes. Donc, de toute façon, on n'empêchera pas les gens d'utiliser la bibliothèque comme lieu de pique-nique. En revanche, c'est peut-être intéressant de mettre tous ces efforts sur le fait que de transformer les pique-niqueurs en utilisateurs, en usagers de la bibliothèque plus actifs. Donc, c'était des exemples qui sont en fait très fréquents. Il y a quand même beaucoup de bibliothèques dans lesquelles le calcul de la fréquentation, le comptage est extrêmement difficile. Hein. Donc, il ne vaut peut-être pas toute l'énergie qu'on peut s'y employer.
C'est vrai qu'à Nîmes, en tout cas, ce sur quoi on met en revanche un point d'honneur, c'est sur l'observation à long terme. On mesure mal la fréquentation, mais on la mesure toujours de la même manière depuis quasi bientôt une dizaine d'années. Et c'est surtout ça, en fait, qu'on va mettre en valeur, c'est l'évaluation positive de notre fréquentation. Bon, après, la cassure, bien sûr, qu'on a observée en 2020, 2021, le fait est que notre courbe, elle est franchement ascendante depuis la fin 2021. Et ça, c'est ça surtout qu'on met en valeur en regard effectivement de tous les efforts qu'on fait pour diversifier nos publics, pour attirer sur l'augmentation, la cadence aussi pour l'action culturelle, pour voilà tout ce qui permet d'animer la bibliothèque. Et c'est effectivement plutôt là-dessus qu'on a mis l'accent. Plutôt que sur la connaissance aussi de nos publics, et notamment de nos publics non inscrits, qu'on a effectivement porté nos efforts ces dernières années.
Alors moi, j'ai trouvé votre retour très intéressant et en fait, votre particularité et votre richesse. Alors effectivement, au niveau des normes, moi, je vous invite, à vous intéresser à la mesure d'impact. Vous pouvez même être précurseur parce qu'en fait, c'est très intéressant ce que rappelait Valérie Travier, c'est que la fréquentation d'un bâtiment ne veut plus forcément dire aujourd'hui la fréquentation d'une bibliothèque. Au sein d'une bibliothèque, et c'est le cas aussi de ce qu'on observe dans les bibliothèques universitaires, il y a de plus en plus de créations de services d'archives et d'espaces muséographiques pour lesquels on va avoir besoin de la mesure d'une fréquentation spécifique et se posera la question des dispositifs techniques qui vont pouvoir le faire ou des bonnes vieilles méthodes manuelles. En revanche, au sein de votre bâtiment, vous avez sans doute, je ne sais pas si vous en avez déjà discuté entre vous, mais un impact les uns les autres sur votre activité. On peut très bien imaginer qu'une exposition au musée entraîne l'emprunt ou l'achat d'un livre, un achat à la librairie, un emprunt à la bibliothèque. Et inversement, à savoir comment est-ce que vous pouvez, dans vos activités mutuelles, créer une forme de dynamique et de synergie, parfois autour d'un auteur, je ne sais quel autre. Et là, effectivement, on dépasse le simple stade de la fréquentation de la bibliothèque, mais le fait de franchir la porte de cet établissement.
Alors effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de démarche conjointe d'évaluation qui ait été portée au sein de CARREDA. Au sein de la direction des musées, il y a une personne qui a été en charge de recenser toutes les démarches d'évaluation des établissements, donc des musées, des bibliothèques au niveau de la ville, pour essayer de le coordonner et éventuellement de mener des actions en commun. Ça n'a pas encore abouti effectivement à ce jour. Par contre, quand on avait fait l'enquête en 2022, on avait demandé aux personnes qu'on avait interrogées s'ils fréquentaient d'autres établissements de la ville. Et c'est vrai que pour les usagers adultes, enfin, de plus de 15 ans de carré d'art, ils avaient tous indiqué, enfin, tous, une grande part d'entre eux avaient indiqué qu'ils fréquentaient aussi le musée d'art contemporain. Mais voilà, on n'est pas allé au-delà au niveau de l'analyse.
Merci beaucoup, Marion.